France Inter.
Bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un acteur qui a toujours su donner de la chair aux histoires, qu'elles soient intimes, sociales ou totalement hors cadre. Et pour son nouveau projet, il prête non pas son visage, mais sa voix. Une voix qui guide, qui raconte, qui ressuscite tout un pan oublié de notre culture. Reda Kateb est avec nous pour Ticaret, le docu-fiction événement diffusé en intégralité à partir du lundi 24 novembre sur Canal+. Ticaret, c'est Paris dans les années 80, le tout premier concept store en Europe dédié au hip-hop, un lieu minuscule mais immense dans son influence. Une boutique laboratoire, une fabrique de mythes où on croise une génération entière d'artistes qui découvrent le rap, de Joey Star à Code Killer, de DJ Mehdi à Oxmo, d'NTM à Booba. Reda est donc le fil conducteur de cette histoire, mais on en profitera forcément pour revenir sur sa carrière, d'un prophète à Hippocrate, de Zero Dark Thirty à Omar La Fraise, en passant par Hors Norme, Django ou encore Les Promesses. Une filmographie traversée d'exigences, de curiosité et surtout de liberté. Reda Kateb est avec nous à La Régulière.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.
Ticaret, magasin mythique et portail à travers lequel le hip-hop est entré en France.
Il y a la contre-culture qui arrive, on voit que les jeunes commencent à prendre leur distance.
Parce que la culture française ne nous faisait pas rêver. Nous, on était une autre génération.
Ça a commencé, c'était plus en rapport avec la musique, le graffiti.
Mais du Ticaret.
C'est les gens qui l'ont transformé en boutique hip-hop. C'est moi et Françoise qui avons ouvert le lieu, mais c'est la rue qui a créé Ticaret.
Bonsoir Reda.
Bonsoir.
Comment ça va?
Bah, ça va bien, merci pour cette présentation gratifiante, mais surtout très juste en tout cas sur comment je mène ma barque, merci.
Bah, merci, avec grand plaisir, merci à toi d'être là. Et donc effectivement, on va d'abord peut-être commencer par parler de ton actualité directe, c'est donc ce documentaire Ticaret, qui est un lieu bien connu des amateurs de hip-hop, en tout cas ceux qui sont intéressés à l'histoire du hip-hop en France dans les années 80-90, peut-être un peu oublié par une autre génération. Comment ce projet est arrivé jusque toi? Est-ce que tu connaissais déjà l'existence de cet endroit avant qu'on te contacte pour en être la voix?
Oui, c'est une espèce de temple mythique de l'arrivée du hip-hop en France, dans lequel moi j'allais pas quand j'avais la vingtaine, mais en revanche j'ai beaucoup d'amis qui m'en ont toujours parlé comme d'une espèce de source où ils allaient s'abreuver les uns des autres de la rumeur à Oxmo, à d'autres personnes de ma génération qui a passé beaucoup de temps là-bas. Et quand j'ai reçu, alors comment je suis arrivé sur ce projet, c'est Joe l'extraterrestre, Joseph, qui m'a envoyé un mail. Qui est le réalisateur de ce documentaire, qui m'a envoyé un mail avec une voix témoin qu'il avait posée lui sur le documentaire. J'ai regardé ça, ça m'a énormément plu, j'ai beaucoup aimé et le point de vue et le travail titanesque qu'il avait fait pour réaliser ça presque tout seul. Je l'ai appelé ou je lui ai envoyé un texto, on s'est parlé et puis on a convenu d'une date pour enregistrer. On s'est rencontré avant, mais j'ai tout de suite senti et la justesse et je dirais la valeur mémorielle d'un tel documentaire.
Toi, tu l'as dit, hein, t'as pas eu l'occasion de t'y rendre à l'époque. C'est une boutique qui a existé de 1986 à 2000. Mais quel est ton rapport au hip-hop dans les années 80-90, tu en écoutes beaucoup. On sait, hein, on reviendra un peu après sur notamment les acquaintances que tu peux avoir avec la rumeur. Il y a bien sûr les derniers Parisiens. Mais à ce moment-là, est-ce que tu es un auditeur de rap ou pas complètement?
Oui. Alors moi, entre le collège et le lycée, je suis passé par pas mal de choses différentes. Ouais. Donc je me cherchais un peu et j'étais surtout pas un acteur de ce mouvement. Je rappais pas.
Oui, t'as jamais essayé de rapper ou de danser?
Si, je dansais dans ma chambre sur MC Solar. quand j'étais au collège, mais sinon par contre non, j'ai souvenir quand même de concerts mythiques d'IAM à Ivry-sur-Seine, là où je vivais, du coup sous un petit chapiteau et dans cette période où c'était l'album de la planète Mars, donc vraiment oui. Le décollage d'IAM. des premiers morceaux d'NTM, des cassettes qui circulaient, de tout ça, donc plutôt de loin et parfois en me rapprochant, j'ai toujours eu un lien en tout cas fort avec cette culture hip-hop. Ouais.
Alors dans le documentaire et dans l'histoire de Ticaret, il y a plusieurs personnes importantes, notamment deux, il y a Dan, donc qui était le gérant, Daniel Fourneuf, et une personne aussi qui, Françoise Otto, et c'est un partenariat assez inédit et surprenant. Est-ce que tu peux raconter un peu comment cette espèce de partenariat finalement a permis à cette boutique d'exister?
C'est un peu le point de vue du documentaire, c'est-à-dire vraiment d'inscrire ce lieu comme une espèce de passage, de porte ou de pont de l'arrivée du hip-hop en France. Ouais. Alors que voilà, à l'époque, il y avait quelque chose d'extrêmement marginal dans cette culture.
C'est aussi un lieu où on se retrouvait entre amateurs de cette culture, parce que aujourd'hui le rap est partout, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, si on voulait rencontrer des gens qui s'habillaient comme nous, qui écoutaient la même musique, il fallait aller dans un lieu comme Ticaret, en fait.
Complètement. J'en parlais il y a quelques jours avec Kazé, qui me disait que c'était la MJC en fait.
Une rappeuse extraordinaire, par ailleurs.
Qui a marqué aussi l'histoire de ce mouvement. Et elle me disait, voilà, c'était la MJC, personne n'achetait rien, quasiment. De temps en temps, des gens rentraient dans le magasin pour acheter quelque chose. Dan, à qui tu faisais référence, donc, qui était avec sa co-gérante,
Françoise,
qui tenait ce magasin, n'avait pas de problème avec ça, et au contraire, aimait discuter avec tout le monde. Tout le monde avait sa place. Il y avait quelque chose, en fait, tel que c'est raconté aussi dans ce documentaire et tel qu'on m'en a parlé, presque quelque chose d'un peu utopique dans ce lieu, quoi. Où le commerce existe, évidemment, c'est un magasin. On apprend aussi dans le documentaire qu'il n'y avait pas un grand talent de businessman de la part de ces deux personnes qui ont fait quand même fructifier ce lieu pendant une période, qui ramenaient des choses sans cesse de New York, des objets qui étaient extrêmement convoités, mais surtout qui, je pense, permettait à beaucoup de gens de se rencontrer, attiser les braises comme ça d'un lieu où il y avait quelque chose qui était en train de naître. Et ce qui est très beau, c'est que une fois que ça a pété, une fois que le hip-hop a commencé à se commercialiser et à faire beaucoup d'argent, ce lieu-là a disparu. Comme si la vocation de ce lieu, c'était de faire ce passage, quoi.
Alors, on parlait de Dan, qui a aussi été un activiste dans la musique et qui a eu un duo avec Moda, qui était un membre du Ministère Hammer originellement. Il y avait trois artistes, Tommy Bugsy, Passy et Moda. Et ils ont eu notamment un morceau qui a marqué les esprits à l'époque sur la compilation Cool Session de Jimmy J. Tu parlais d'MC Solar, qui était le producteur MC Solar. C'est le morceau Moda et Dan s'ennuient.
On me demande de quoi je vis. Je dis juste, non, sois pas triste bébé. Je dis juste que Moda et Dan s'ennuient.
C'est l'époque du rap jazzy aussi, on appelait ça comme ça. Est-ce que, selon toi, ce genre de lieu, est-ce que c'est encore possible de reproduire l'essence de ce genre de lieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore se retrouver comme ça dans une boutique c'est quelque chose qui est un peu en train de se perdre, comme les disquaires, c'est plus compliqué, comme les vidéoclubs. Est-ce qu'on peut encore avoir un Ticaret aujourd'hui?
Je sais pas, moi j'ai plus l'âge auquel on est sans cesse en tête en train de traquer ce genre de lieu, d'essayer de le trouver. Mais je pense que les choses se transforment, que les choses se déplacent. Évidemment aujourd'hui il y a des lieux immatériels qui existent, quoi, qui sont finalement les réseaux, toutes ces choses-là. Mais je pense que malgré tout, face à ce courant dominant, il y a des contre-courants qui existent, et le besoin, en tout cas physique, des gens de se retrouver dans des lieux. C'est juste que c'est certainement moins global, et puis il y a des nouveaux lieux qui viendront avec des nouvelles cultures qui viendront. Les choses sont sans cesse en renouvellement.
En tout cas, le documentaire sera diffusé donc sur Canal+ à partir de lundi 24 novembre. Je propose qu'on écoute un morceau de rap, évidemment, car c'est un peu le sujet aujourd'hui, un morceau de rap français avec deux artistes, Okis et Mindace, qui ont sorti trois projets en commun, Crème, Double Crème et Triple Crème. Et on va écouter tout de suite Magnum, un morceau qui est disponible sur le dernier opus en date, Triple Crème. Je pense que c'est du rap qui peut te plaire. Tu me diras ce que t'en penses après ça. On écoute ça tout de suite.
Petits artistes, on tire depuis un gros ficelle. Là c'est parti, je deviens je sais pas qui, mais au moins c'est officiel. Petit rigolo, grand triste et futur apprenti beatmaker avait senti pousser les centristes et les charcutiers traders. Insulte les fakes, ajoute les faits, ajuste les faders. La vie c'est une pute mais elle peut pas trop me parler de ses problèmes, c'est trop bête. Là je peux plus verser une thune mais chala, je fais pas de clip ou en fait c'est une pub pour Citroën. les suis en dressant le shit coupé. Ils veulent voir ça, j'en blazer. Dans le foot depuis coupé, je m'en fous de l'argent des glazers. La vie c'est facile quand tu crois que tu peux pas débarrasser d'elle. Je trouve y'a trop de nazis, mais y'a pas assez de haine. Jamais je foire une balade, excuse tu me parlais, je sens pas la gravité. Juste, j'avance dans mon corps et juste j'ai plus de balafres. Bien ou bien, ça va?
Ouais, super, mais j'sais pas qui.
Tu fais quoi là? Moi je place pour un pote. Son blast c'est Manny Days et c'est un truc de malade.
Magnum, la moustache de Magnum.
Magnum,
coach là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
coach là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
j'suis la cinquième étoile de Scolari. J'ai 99 dans Konami. Frappe d'Adriano, Okismani, on plie comme Ori. Gami tient la rime, gratos. Des gaines d'anciens tellement impeccables. Prince des régulars, des ordinaires. Rap comme personne, classe comme Bergkamp à Saint James Park. J'suis Boldy James sur du Portichet. Enfant du vinyl et de la Motown. Dell Honor, ça all eyes on me. J'entends leur zumba lamentable. C'est la mota derrière un cardioïde. Façon puzzle, on t'éparpille. Flagrant silence comme Rowan Atkinson. Verbal kin, base l'artiste. Baloche à l'air, ils ont même pas de kilt. Monde connecté, mais y'a même pas kit. Y'a pas de Pontiac Firebird. Quand je mets le contact, le Firebird dans mes batteries. Que des panenka mes pénalty.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
couche là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum,
la moustache de Magnum.
Magnum,
couche là, ça sort le Magnum.
Magnum,
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum.
La moustache de Magnum, donc, référence évidemment à Tom Selleck, c'était Okis et Many Days, donc morceau présent sur leur dernier projet en date, Triple Crème.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Reda Kateb est avec nous pour le documentaire Ticaret dont on a commencé à parler. Et puis, puisqu'on parle de musique, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu tes goûts musicaux. Tu nous as dit que tu es passé par plein de périodes différentes dans ta jeunesse. Si je devais te demander le morceau de ton enfance, est-ce qu'il y a un morceau qui symbolise un petit peu ton enfance?
De mon enfance ou de ma jeunesse? Parce
de
que
ton enfance, je vais aller sur l'adolescence après.
Avant l'adolescence, alors.
Ouais. Qu'est-ce que t'écoutais?
C'était un peu ce qui passait à la radio.
Ouais.
Hein, mais je me souviens que au centre de loisirs, j'avais chorégraphié avec mes petits camarades une petite chorégraphie sur Bad de Michael Jackson.
Ah, ouais, okay.
Que j'avais en 45 tours, donc voilà, les disques qu'on écoutait et qu'on réécoutait jusqu'à ce que ça saute et qu'on puisse plus l'écouter.
C'était compliqué de passer à côté de Michael Jackson, de toute façon, dans les années 80, c'était...
Ouais, et puis puisqu'on parle même de ces histoires de transmission et tout ça, c'était, voilà, il y avait les anciens qui étaient habillés avec les petites chaussures de Michael Jackson à la Moonwalker dans
ouais.
le clip, et puis nous, on était, voilà, les marmots qui tournaient autour et qui essayons de ressembler à ces gars. Évidemment, on sortait pas, on rentrait
oui.
à la maison prendre le goûter, mais j'ai un très très beau souvenir, ouais, de ces moments au centre de loisirs sur Bad. Ouais.
Morceau de ton adolescence, donc ta jeunesse, quand tu commences peut-être aussi à avoir tes goûts à toi.
Alors je dirais tout l'album en fait de la planète Mars là.
Okay. Donc c'est ça fait deux fois que tu le fites, c'est marrant parce que c'est généralement sur IAM on cite souvent l'école du micro d'argent, même Ombre et Lumière. Et c'est vrai que ça commence avec de la planète Mars qui sort en 91 si je ne dis pas de bêtises. Il t'a marqué cet album?
Ouais, parce que c'est tout d'un coup, voilà, vraiment l'émergence d'une nouvelle culture, de gens en plus qui sont pas de Paris, qui racontent aussi d'autres histoires, et puis avec toutes les intros qui font référence aux pharaons égyptiens.
Exactement. Ouais.
Et tout d'un coup, tout un univers très large, en fait, beaucoup plus large que uniquement de compter le quotidien d'une vie en cité ou les histoires qui vont avec. Il y a une espèce de mythologie autour que Ayam rapporte et qui nous élargit l'horizon d'une certaine manière.
Ouais. Je pense qu'on écoute un extrait de Planète Mars.
Ici a été réalisé pour la première fois dans l'histoire un vol cosmique de la Terre sur un autre corps
solaire. On vient de MARS, ce n'est pas une farce. IAM, light de la planète Mars. Veille, sommeil, devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinquance au déruquant vient le soir. Mais que de mots dépassés, que de folie. Ici sont des génies du genre Léonard Vinci. Et voici.
Donc avec le flow de l'époque d'Akhenaton.
Avec la flûte de l'époque.
La flûte de l'époque aussi. Tout, mais voilà, c'était aussi ça le rap français à cette époque-là. C'est un des premiers albums vraiment de rap français qui a aussi marqué à cette époque. Et alors, moi, si on parle de musique, notamment de musique au cinéma, il y a un moment qui m'a marqué dans un film dans lequel tu joues. C'est l'incursion de ce morceau dans Un Prophète.
He'll be the greatest man alive. Greatest man alive.
The blues came from gospel, gospel for blues. Slaves are harmonizing them ahs and oohs. Old school, new school, no school rules. All these years I've been voicing my blues. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Graffiti on the wall, coulda ended in Spoffit. Juvenile delinquent. But pops gave me the right type of tools to think with. Books to read, like X and stuff.
Donc c'est le morceau Bridging the Gap de Nas, avec effectivement, comme tu viens de me le souligner, Oludara, qui est son papa, qui était un musicien aussi. Et c'est vrai que je me souviens très bien de cette scène, qui est une scène, je crois, où on voit Tahar-Rahim en train de faire la cuisine, je crois. Enfin, c'est un moment vraiment avec un montage très saccadé. Ça m'avait marqué, ça m'a même fait un petit peu penser, alors que la scène n'a rien à voir, au Push It to the Limit dans Scarface, tu sais, quand t'as plein de choses comme ça qui arrivent avec une musique comme ça. Est-ce que ça t'avait... Enfin, évidemment, toi, c'est un moment important pour toi, Un Prophète, mais il y avait presque un côté, c'est pas du tout le sujet du film, mais un côté aussi dans l'esthétique, presque hip-hop, en tout cas, dans ce que le film aussi revendiquait et incarnait. Je sais pas si tu l'avais aussi senti comme ça.
Ouais, carrément. Ouais, c'est un fort moment du film, un moment où tout d'un coup, les choses se passent bien, ouais. Dans ce film, dans lequel Malik, le personnage de Tahar, doit affronter beaucoup d'épreuves pendant son incarcération et où tout d'un coup les choses glissent. Il
ouais.
Y a quelque chose où tout d'un coup, voilà, c'est une montée, ça se passe bien. Le business qu'on fait ensemble dans la cour se passe bien.
Ouais.
Lui, il travaille à la cantine et tout ça. Et le titre de ce morceau, c'est Bridging the Gap, donc le gap entre le pont entre Nas rappeur et son père bluesman. Pour nous, c'était, je pense, le pont que représentait ce film entre notre vie d'avant et notre vie future,
ouais.
Où on sentait très bien que voilà qu'on était en train d'emprunter un pont. Et en tant que tel, c'est un morceau que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il raconte beaucoup ça, même si on écoute les paroles aussi.
Tout à fait.
Il y a vraiment cette notion de s'inscrire finalement dans une chaîne qui est plus grande que juste notre moment présent, quoi.
Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, quand tu joues dans Un Prophète, quand vous jouez dans Un Prophète, parce qu'il y a effectivement toute une génération de jeunes comédiens à ce moment-là qu'on connaît pas ou peu et pour qui la vie va changer, est-ce que tu sens que tu joues dans un film qui peut changer ta vie, en tout cas qui peut marquer son époque, parce que c'est le cas?
Bah, à 1000%.
Ah ouais, t'en as conscience quand tu le fais?
À 1000%. Bah, j'en ai conscience, je l'espère, et j'ai conscience que j'ai une carte à jouer et un moment à pas rater. Après, je me prémunis aussi des déceptions en me disant que la porte peut se refermer aussi vite qu'elle ouais. s'est entrouverte. Mais je pense que, et avec les autres aussi, quoi, et notamment avec Tahar, au moment où on prépare le film, au moment où on commence à le tourner, on sent qu'il y a quelque chose de bouillonnant, quelque chose qui se passe. Quelque chose, même pour les équipes techniques, où tout le monde nous dit que c'est pas comme ça d'habitude, qu'il y a on sent qu'il y a une espèce de supplément d'âme comme ça sur ce film. Et puis après, au moment de la sortie, ouais, on sent clairement, enfin voilà, on fait le tour
oui,
du monde.
Voilà, bien sûr.
Et je pense que même encore aujourd'hui, des opportunités que je peux avoir de travailler dans des films étrangers et tout ça viennent encore de ce film-là, qui je crois est le seul film culte finalement que j'ai pu faire. Enfin, un film qui reste dans le temps et qui est considéré comme un film culte, Parfois, on en fait un dans une vie. Ou voilà. Ouais.
Bon. Rita Kateb est notre invitée ce soir dans La Régulière. Justement, on va peut-être pouvoir un peu creuser sur la partie cinéma. Tu dis que tu as joué potentiellement dans un seul film culte. Ça, le temps nous le dira. Mais je pense qu'il y a des films qui ont ce potentiel-là. Alors, je ne sais pas si c'est un film culte et tu n'as pas un premier rôle dedans, mais tu as quand même un rôle important. Tu avais joué dans Zero Dark Thirty au début de la décennie passée. Donc, un film de Catherine Bigelow qui, d'ailleurs, vient de ressortir un film sur Netflix, House of Dynamite, et qui a aussi cette réputation
bon
de... Très bon film, exactement. J'étais très agréablement surpris. Même si, enfin, je ne sais pas pourquoi j'y suis surpris, parce qu'elle a quand même une filmographie assez impérial, et toujours dans des films très musclés, quelque chose qu'elle aime bien. Toi, à ce moment-là, t'es pas encore très connu quand tu joues dans ce film. Comment ce film arrive à toi? Car pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un film qui a été extrêmement célébré avec Jessica Chastain, qui raconte la traque d'Oussama Ben Laden. C'était vraiment un film événement, qui lui aussi a fait le tour du monde. Comment se passe cette expérience à l'époque? Est-ce que c'était une expérience, tu sais, classique de ce qu'on peut imaginer d'Hollywood, où c'était vraiment un film un peu à part? Je crois que vous avez beaucoup tourné en Jordanie. Comment ça s'est passé?
Ah ouais, y a rien de classique de toute façon dans ce métier. C'est à chaque fois tellement différent. Mais là, je bénéficiais justement du fait qu'un prophète avait été quand même très vu à Hollywood, qu'il avait été nommé aux Oscars l'année d'avant. Tout et donc, les noms circulaient, quoi, d'une certaine manière. Et j'ai eu un message de mon agent qui me parlait d'une directrice de casting à Londres qui voulait un essai pour partir en Jordanie faire quelques scènes sur un film très secret et tout. Donc je dis bon, ok, je fais l'essai. Ensuite, on me dit, ok, c'est bon, tu pars en Jordanie une semaine. Par contre, il y aura des scènes. Alors, il n'était pas encore question de scènes de torture vraiment violentes, mais d'interrogatoire où tu auras une cagoule sur la tête. Donc, en gros, on ne te verra pas. je dis, ouais, mais ok, j'y vais. Je ne suis jamais allé en Jordanie. C'était, voilà, ces périodes aussi des débuts où on accepte tout, quoi.
Qui va, quoi.
Même le petit festival, en Pologne, je ne sais pas où, j'allais partout, quoi. Et donc j'y vais et je passe quelques jours en plus bloqué dans un hôtel avec un acteur que j'aime beaucoup, Simon Abkarian. On échange, ça nous permet de passer du temps ensemble. Je tourne cette fameuse scène où j'ai une cagoule sur la tête et là, Catherine Bigelow demande d'enlever la cagoule. On fait des petits essais, des petites choses. Je m'aperçois que c'est en même temps un tournage mais en même temps un moment d'essai. Et à la fin, son co-scénariste me dit qu'ils aimeraient me proposer un des rôles importants du film, me demande si je serais d'accord. Je dis, dans ce cas-là, j'ai envie de lire quelque chose. Je suis venu sans rien lire, mais là, je voudrais lire les scènes. Il m'envoie un document qui s'auto-détruit sur l'iPad de l'époque. Donc, c'est un film en soi. Et je reviens un mois après et on tourne pendant, je ne sais plus, une dizaine de jours ensemble. Avec Jason Clarke et Jessica Chastain dans une vraie prison à Amman en Jordanie, un lieu vraiment très fort, donc très loin d'un studio hollywoodien, au contraire un lieu vraiment impacté.
C'était pas Hollywood du tout, ça n'a rien à voir avec Hollywood finalement.
Non, alors après j'y suis allé pour présenter le film et tout ça, mais le tournage en lui-même, et puis même au niveau du travail en lui-même, même si le budget est certainement 40 fois un budget de film français moyen, qu'il y a, je ne sais pas, 10 assistants metteurs en scène, que c'est une grosse équipe et tout, je retrouve avec elle ce sens de l'artisanat qui est, le matin on cherche la scène ensemble, avec elle, son chef-op, co-scénariste, les acteurs. Et une fois qu'on a bricolé vraiment en mode comme sur un petit film, on cherche la scène, une fois qu'on sait un peu où on va, là il y a une espèce d'armée comme ça qui rentre, plusieurs caméras et tout ça, mais au final j'ai pas eu l'impression qu'on était parasité par une grosse machine et qu'au contraire cette femme avait une manière de dresser cette machine avec toute sa féminité, sa délicatesse et son autorité aussi. Ça a été une belle expérience.
Tu connaissais bien son cinéma avant d'aller sur ce film ?
Un petit peu. J'avais vu certains de ses films. J'avais vu notamment Des Mineurs, le film...
Qui est un film qui a été très célébré quand il est sorti, exactement.
Ouais, c'est le premier film réalisé par une femme à avoir l'Oscar du meilleur film. Je trouve ça d'ailleurs assez ironique parce que dans Des Mineurs, donc c'est des Américains qui désamorcent des bombes, Oscar, célébration et tout. Et Zero Dark Thirty, qui quand même... tend à l'Amérique un miroir qui n'est pas uniquement flatteur,
absolument,
qui parle de la torture, qui parle de toutes ces choses-là. Ça a été ensuite une campagne de bashing très très forte là-bas à Hollywood contre ce film, et je trouve que cette femme est très courageuse d'avoir donné à son pays à voir aussi ces choses-là, quoi.
Alors il y a beaucoup de choses, je l'ai dit en introduction, tu fais des choix très différents et qui effectivement semblent très libres, et puis il y a aussi des rencontres, je pense, qui sont importantes dans ta carrière, et je pense que j'ai l'impression qu'il y en a notamment une, celle avec Wim Wenders, qui est un réalisateur lui aussi extrêmement important, qui a fait 2-3 classiques dans sa carrière, et vous avez fait 2 films ensemble. Est-ce que là aussi il y a une rencontre qui est particulièrement importante pour toi, et une forme, moi j'ai toujours l'impression que quand un réalisateur rappelle un comédien, c'est qu'il sent quelque chose, parce qu'il se voit aussi en lui, je sais pas, mais quelle relation vous avez tous les deux?
Ah bah c'est déjà une rencontre que j'aurais même pas rêvé pouvoir faire, quoi, et c'est vrai que il fait partie des gens qui m'ont fait qui m'ont élevé le regard, quoi, qui m'ont fait grandir en tant que spectateur, qui m'ont fait, avant même que j'imagine que moi-même je pourrais faire du cinéma. Et puis ensuite, la rencontre, bah, elle a été très simple, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait en plus ce film, ça s'appelait Les Beaux Jours d'Aaron Ruiz, adapté d'une pièce de théâtre de Peter Handke, qu'on a tourné dans un jardin, dans le Vexin, pendant 2-3 semaines, avec une toute petite équipe. Il n'y avait pas plus artisanal qu'un tournage comme celui-là. Du coup, on avait aussi beaucoup de liberté. On vivait ensemble dans un petit gîte à côté, et tout ça. Donc voilà, on s'est rencontrés, et puis... il fait partie des gens qui vous apprennent sans rien tenter de vous enseigner, quoi. Il y a quelque chose dans sa manière d'être, sa présence, son regard, sa curiosité, énormément de choses qui sont très inspirants, quoi, énormément. Et ensuite, on a fait donc ce film avec James McAvoy et Alicia Vikander, qu'on a tourné en Espagne, à Djibouti et tout. Et là, pareil, c'était l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble. Et je l'aime beaucoup, ouais, au-delà de ces films.
Ouais. Bon, je l'ai un peu mentionné aussi, tu as travaillé notamment avec les deux artistes qui ont un groupe de rap important, La Rumeur, Amé et Ikoué, et tu as travaillé notamment dans le film Les Derniers Parisiens, je crois que tu les connais bien, et je me suis dit qu'on était obligé d'écouter un classique de La Rumeur, et je propose qu'on ne soit pas trop surprenant, et qu'on aille tout droit, et qu'on écoute L'Ombre sur la Mesure.
Allez, ça marche.
Ça te va, ouais, La Rumeur, bien. L'Ombre sur la Mesure, morceau éminemment important, présent sur l'album éponyme, sorti quelque part au début des années 2000, L'Ombre sur la Mesure.
Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs, au crépuscule d'une bavure. Je murmurai la haine, enclavée dans les huppes en région parisienne. L'amour comme rempart à la dérive, au registre de ces âmes charitables plutôt naïves, se perd, donne à ma palave son caractère. Sourire kabyle dans les artères de ma ville, voilà à quoi l'instinct de malfaiteur, ma foi, se familiarisera. Aux effusions sanguines d'une trop commune routine, la rue se massacre sous le ciel des damnés. N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé. Hier encore, l'ombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais a la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces lampadaires qui éclairent la misère. Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourrit ces rumeurs de peur et de paranoïa à des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. À vos risques et périls, derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une bombe.
Quand tu as allumé la mèche,
chie et graine les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe.
Quand tu as allumé la mèche,
qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe.
Quand tu as allumé la mèche,
qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe.
Quand tu as allumé la mèche,
et qui égrène les secondes
d'une saison.
Je suis l'ombre sur la mesure, à la pointe d'une écriture. L'ombre de ces murs aux mille blessures, que des bouches murmurent entre deux rondes furibondes, du bleu criard ou blafard d'un gyrophare. Je tisse ma toile noire sur des cœurs hagards et je traîne mes guêtres sous les fenêtres de ces ruelles qui ont la lèpre. Au carrefour de la cour, des miracles en débâcle, sous les arcades malades ou crises. Les voies croisées de la faim et du vice, je suis l'ombre cerclée de grilles, rouillée, verrouillée sur une aire où rien ne brille, où les corps se compriment, où la vue décline et où les brigadiers fulminent. Regarde ces silhouettes grises dont les rêves gisent sur le pavé couvert de puisse. Elles poussent toutes la même porte en crachant sur le trottoir de leurs illusions mortes. Nous n'avons à perdre que nos pensées ternes, te diront-elles avec le feu dans les yeux de ceux qui sont prêts à tenter le diable, pourvu qu'ils garnissent leur table et conjurent la misère, le fer et la pierre qui les les enserre, je suis l'ombre sur la mesure. Et je sature dans les graves de cette basse qui monte d'une cave parmi la crasse et les terres d'une trop vieille poudrière.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
C'était La Rumeur avec L'Ombre sur la mesure, un morceau extrait de l'album éponyme.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et aujourd'hui, Reda Kateb est avec nous pour le documentaire Ticarette qui sera disponible lundi 24 novembre sur Canal+. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler de quelques documentaires qui me semblent importants autour du hip-hop. Tu me dis si tu les as vus ou pas, si tu as envie d'en parler. Et je voulais commencer avec un classique, quelque chose d'assez évident, en tout cas pour la nouvelle génération, Hip-Hop Evolution. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir cette série documentaire canadienne présentée par le rappeur Shad. C'est probablement l'un des travaux les plus complets jamais réalisés sur la culture hip-hop. La force de la série, c'est son périmètre. Elle remonte à l'origine pure, au Bronx, au Block Party, à Kool Herc, Africa Bambaataa, Grandmaster Flash, et elle recouvre ensuite 4 décennies de transformation. Chaque épisode est construit comme un voyage. Houston, Atlanta, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans. Chaque ville est un monde, un son, un vocabulaire particulier, et on y croise presque tout le monde, Rakim, Chuck D, Ice Cube, Ice-T, des gens aussi plus récents. Et surtout, c'est une série qui donne la parole aux bâtisseurs, ceux qui n'ont pas toujours eu la lumière, des ingénieurs, des DJ, des managers, des producteurs, qui ont façonné l'ADN du hip-hop. C'est à la fois une archive, une transmission et un manifeste. Voilà d'où vient la musique la plus populaire de la planète.
Placed my fingers on the vinyl. I let it go. Stopped it. But the taboo thing was you're not supposed to touch the middle of the vinyl.
This is the birthplace where it all began. Watch me now.
Feel the groove. And how the crowds respond when you do
it. Oh, crazy. Man, stop it, man.
They had this incredible sound system.
Bra, 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 bra. T.
You know, you never seen nothing like it. It's the next generation ushering in a new idea.
So swinging with the boys in tune. And it feels fly up in the air.
Hold up. Y'all taking this rock rap thing too far.
And the rest is history.
Donc c'est disponible d'ailleurs sur Netflix, hein, si vous voulez voir ça. Est-ce que t'as eu l'occasion de regarder ça ou pas, Reda?
Pas encore, non, mais bon. J'ai regardé sur Google pendant que t'en parlais.
Okay.
Je vais le regarder.
C'est vraiment exceptionnel, ça se regarde très facilement, c'est assez très ludique, tout en étant vraiment instructif. Pour moi, c'est, dans en tout cas les documentaires modernes, c'est un peu un immanquable si on veut vraiment se faire en tout cas la culture américaine. C'est vraiment centré sur le rap américain, c'est très complet, exhaustif, donc je conseille vraiment, c'est assez parfait. Changement d'ambiance avec The Defiant Ones, qui là on est moins dans l'histoire, on est plus dans les coulisses du pouvoir. C'est un documentaire qui raconte l'alliance entre Dr. Dre et Jimmy Iovine, le producteur à la base rock, qui est devenu un magnat du business, et leur ascension commune jusqu'à la vente de Beats à Apple. Et ce qui est fascinant, c'est la rencontre entre donc Dr. Dre, artiste génial, obsédé par le son, et Jimmy Iovine, instinctif, assez agressif et un vrai stratège. Le film montre comment les deux se complètent et réinventent ensemble l'industrie musicale. Et derrière l'histoire, il y a toutes les autres. L'époque du label Death Row, les tensions avec Suge Knight, le tournant Aftermath, la découverte d'Eminem, la culture West Coast, la naissance du rap populaire, global. C'est le hip-hop vu par les architectes du business, avec une mise en scène presque hollywoodienne et des archives incroyables, et surtout des témoignages de Eminem, Bono, Snoop Dogg, Gwen Stefani ou encore Nas.
Check. We're talking about Jimmy and Dr. Dre.
Jimmy Iovine is the levitator. Dre is the innovator.
I need something a little bit more impressive.
It was the beginning, making fear a tailwind instead of a headwind.
Et alors, pour terminer, un ovni qui est moins un documentaire sur le hip-hop, mais je voulais en parler avec toi, c'est cette pièce assez unique sortie au début des années 2010, I'm Still Here, donc réalisée par Casey Affleck, qui filme Joaquin Phoenix en pleine mutation. L'acteur annonce qu'il abandonne Hollywood pour devenir un rappeur. Il se laisse filmer dans un état de dérive totale, paranoïa, nuit blanche, excès. Longtemps, personne ne sait si c'est vrai ou faux. Finalement, il dira que c'est une performance, mais le film joue avec les codes du documentaire, du hip-hop, de la star culture. Il révèle tout ce qu'on ne voit jamais, l'effondrement d'une image publique, la pression médiatique, la fiction comme refuge, et même après, une fois qu'on a dit que tout ça était faux, le trouble persiste parce que certaines scènes semblent trop vraies, trop fragiles pour avoir été simplement jouées.
That's you. Drop some water. And you're on top of the mountain. A success. But one day you start sliding down the mountain and you think, wait a minute, I'm a mountaintop water drop. I don't belong in this valley, this river, this little dark ocean with all these drops of water. Life's a journey that goes round and round, and the end is closest to the beginning. So if it's change you need, relish the journey.
Est-ce que ça te parle, ce docu-fiction, I'm Still Here?
Sur quel aspect
Non, est-ce que tu t'en souviens, est-ce que tu as pu le voir ou...
Non, pas encore. Okay, non, justement, pareil. Okay. Merci pour les recommandations.
Pour les recours. Okay. Ouais. Non, parce que c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment l'époque où Joaquin Phoenix semble en perdition. Je crois qu'il avait fait The Master de Paul Thomas Anderson, qui est un excellent film d'ailleurs, mais on savait pas trop s'il était vraiment en burn-out, et puis il est revenu en force après. Mais donc c'est vraiment un moment assez particulier, une œuvre assez étrange, mais
je trouve très
assez jouissive à regarder.
De le regarder, ouais.
On est en tout cas ce soir avec Reda Kateb pour le documentaire Ticaret. Reda, on va essayer de déterminer quel est ton film préféré. Je te donne à chaque fois deux films, tu me dis lequel tu préfères et pourquoi.
Ah ok. Allez, c'est parti.
On commence. Je mets dans la balance La Grande Illusion de Jean Renoir et Les Ailes du Désir de Wim Wenders.
Ah, c'est difficile là.
Ah bah ouais, oui, okay. Ça va être que tout va être difficile.
Les Ailes du Désir de Wim Wenders. Allez.
Pourquoi ? Par amitié.
J'ai pas rencontré Jean Renoir. Ouais. Okay. Mais les deux quand même représentent des espèces de monuments du cinéma, chacun dans son
Évidemment.
Genre, qu'on peut voir et revoir sans arrêt, sans se lasser. Ouais.
Et bon, je l'ai pas dit ici, mais dans La Grande Illusion, il y a aussi Jean Gabin, et t'as souvent raconté à quel point c'est un acteur qui t'a, dès le plus jeune âge, je crois, fasciné, sûrement aussi influencé. C'est ta première référence quand on parle de comédien.
Je crois que c'est un acteur que j'ai découvert plus tard, justement au moment où je commençais à tourner, à faire du cinéma. Et c'est d'ailleurs un acteur qui me l'a fait découvrir. Et Vincent Lindon, je me souviens qu'il m'avait offert plusieurs DVD avec Vincent Gabin en tête d'affiche.
Lindon fait des cadeaux sur les tournages.
Non, pas sur un tournage, okay. On s'était rencontrés, c'était un déjeuner par une amie attachée de okay. presse, et puis il me parlait de films, il me disait « t'as vu ça, t'as vu ça, okay. t'as vu ça ?» Je disais « non, il s'est absenté un moment, et il est revenu avec une pile de DVD du magasin
génial,
d'à côté. » Ouais, c'était très généreux, et en tout cas, ouais, c'est là que j'ai accédé à ça, et finalement à la modernité du jeu de Jean ouais. Gabin par rapport à l'époque, par rapport à ce qu'on voyait à l'époque. Et ouais, ça a été une espèce de coup de foudre et encore d'inspiration aujourd'hui. Ouais.
Les Ailes du Désir, où il était une fois en Amérique.
Les Ailes du Désir, toujours, ouais, toujours, pas uniquement par amitié.
Non, c'est un très bon film. Hein. Les Ailes du Désir ou E.T.
Ah, c'est toujours Les Ailes du
bah
Désir.
Bah oui, parce qu'en fait, l'idée, d'accord. c'est de savoir qui peut le battre.
Ok, bah E.T. alors. E.T.
est un film plus important pour toi.
E.T. c'est tellement. Je dirais que oui, dans un sens, c'est plus important parce que c'est accessible pour tout le monde.
Ouais.
Et que moi, je l'ai découvert, je devais avoir 6 ans. Et je pense qu'on m'aurait mis Les Ailes du Désir à 6 ans. Je serais passé vraiment à côté.
Est-ce que tu l'as revu en étant adulte, ce film ?
Ouais, je l'ai revu.
Moi, je l'ai
même
revu et je le trouve très, très beau encore, E.T., en fait.
Ah, mais totalement, totalement. Là, il y a 3 ans, j'ai réalisé un film que j'ai écrit, ouais. qui s'appelle Sur un fil.
Oui.
Et je me souviens que la veille du premier jour de tournage, donc un soir où j'ai eu un peu de mal à trouver le sommeil, je me suis revu E.T. ce soir-là. Comme si c'était une espèce de truc où on revenait à un texte sacré, quoi. Ouais. On revenait à quelque chose qui allait donner de la force pour envisager ce chantier-là. Mais ouais, non, je trouve que dans encore aujourd'hui, c'est et puis le cinéma, c'est un art populaire, quoi. C'est-à-dire que pour moi, j'ai jamais vu comme quelque chose de douteux qu'un film
soit aimé par tout le monde,
que le monde entier s'approprie un film. Au contraire, c'est vraiment tout d'un coup, il y a quelque chose qui est à la fois exigeant, qui nous élève, mais qui est accessible. Et pour moi, c'est ça aussi la magie du cinéma.
Je ne risque pas l'idée de mettre un court extrait du générique. Dici. C'est un générique de John Williams, évidemment. Ichi ou, et là c'est les années 80, Marche à l'ombre.
Est-ce que je dois faire un pont entre les deux dans le temps ou est-ce que je dois réellement comparer les deux objets?
Non, c'est évident, ça n'a rien à voir, mais je crois savoir que Marche à l'ombre, c'est un film qui a été aussi important pour toi, que t'as beaucoup regardé.
Ouais, du coup, on passe à Marche à l'ombre. Ça fait un peu bizarre après okay. La soucoupe qui était en train de s'envoler, là. Mais du coup, on atterrit dans un Paris des années 80 ouais. Où Michel Blanc et Gérard Lanvin sont deux galériens, un peu artistes, mais surtout galériens, et dans lesquels je me suis beaucoup identifié dans mes années justement difficiles avant que je réussisse à vivre de ce métier. Et où c'était, j'avais la cassette VHS qu'il fallait rembobiner pour la regarder. Et régulièrement, je revoyais ce film comme une manière de se rassurer aussi par le rire, quoi, par ces personnages, un peu comme deux copains, finalement, que je connaissais à travers cette cassette vidéo.
Marche à l'ombre ou Step Brothers qui est une comédie avec John C. Reilly et Will Ferrell, pas si populaire que ça en France, mais complètement culte et classique aux États-Unis.
Ah oui, 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 un grand classique. J'invite vos auditeurs à le découvrir. Ouais. Frangin malgré eux, le titre exactement. Français. On passe à ce film. Du coup, c'est Will Ferrell et John C. Reilly qui sont tous les deux des ados attardés, mais qui doivent avoir 40 piges, je crois, dont les parents décident de vivre ensemble. Exactement. Et donc, ils se retrouvent demi-frères à devoir cohabiter. C'est un film extraordinaire de drôlerie et de finesse. Et puis, j'admire beaucoup ces acteurs-là, notamment John C. Reilly, parce que c'est un acteur qui finalement arrive à passer d'un registre à l'autre, ouais. De la comédie avec ce film-là, à des choses beaucoup plus torturées, difficiles. Je me souviens de son rôle dans Magnolia, notamment.
Absolument.
Et voilà, j'ai une grande admiration pour ce duo-là. Voilà.
Est-ce que tu aimerais faire plus de comédie, toi ?
C'est pas vraiment une question que je me pose. Par contre, quand vient l'opportunité de faire une comédie avec des gens avec lesquels je vais me sentir bien, passer du bon temps et tenter quelque chose dans un univers qui n'est pas forcément mon écosystème naturel, j'y vais. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec Jean-Pascal Zadi.
Ouais, ouais,
on est parti dans l'espace. Premier film, première comédie spatiale africaine de l'histoire du cinéma français. Et voilà, donc je ne me mets pas de barrière. Après, c'est sur comment les gens vous envisagent, ouais. Ce qu'on peut recevoir. Et puis, c'est difficile quand même de trouver, en lecture des scénarios que je reçois, des bonnes comédies. J'avoue que c'est pas évident. Donc, je cherche, mais... Après, c'est encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, pouvoir incarner des personnages différents, passer dans des mondes différents. La comédie, le drame, le thriller...
Oui, tu réfléchis pas en termes de genre, en fait. Tout dépend de ce qui vient à toi, du scénario, c'est ça qui va te...
Ouais, d'un désir, ouais. D'une envie de faire quelque chose. Ouais.
Bon, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que Step Brothers est ton film préféré?
On peut, si tu veux.
Tu préfères ça à La Grande Illusion?
C'est ça difficile, qu'on retiendra. Ça va être difficile à argumenter, mais,
moi, ça
mais
me
je suis d'accord avec ton diagnostic.
Bon, allez, très bien, ça me va. Je pense qu'on écoute un morceau issu du dernier album des Clips, le duo de Virginie. C'est un morceau qui s'appelle Chains and Whips, en collaboration avec celui qui a fait une année 2024 extraordinaire, Kendrick Lamar. On s'écoute ça tout de suite. Bon.
nigga and ice my bitch. Beat the system with chains and whips.
This is culturally inappropriate.
You run from the spirit of repossession. Too much enamel covers your necklace. I buy bitches, you buy them sections. You buy watches, I buy collections. Misery's fueling your aggression. Jealousy's turned into obsession. Reality TV is mud wrestling. Some sign checks I know better than. Beware of my name that there's delicate. You know I know where you're delicate. Crush you to pieces, I hum a breath of it. I will close your heaven for the hell of it. You think it'd be valor amongst veterans. I'm watching your fame escape relevance. We all in a room, but here's the elephant. You chasing a feature out of your element. And those lab diamonds under inspection. The question marks block your blessings. It's no tombstones in the desert. I know by now you get the message. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. It don't take much to put two and two. Your lucky streak is now losing you. Money's dried up like a cuticle. You're gasping for air now, it's beautiful. John 10:10, that's my usual. Mamas is falling out in funerals. Embalming bloat, they now viewing you. They never find the guns, but the sewers do. Bubbles was sick, he need medicine. Brought him back to life, now he's dead again. Richard don't make watches for presidents. Just a million trapped between skeletons. This the darkest that I ever been. The diamonds make you taste peppermint. You ain't thriving the snow like it's the Revenant. And send orders back down to keep shoveling. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips.
You know, again, calling your looks out of sight. Like, what did they say? And they ignored his voice. And then you realize that the devil is talking to you.
I'm not the candidate to vibe with. I don't fuck with the kumbaya shit. All that talent must be God sent. I send your ass back to the cosmics. The things I seen under my eyelids. Kaleidoscope dreams, murder and sirens. Let's be clear, hip-hop died again. Half of my prophets may go to Rakim. How many Judases that let me down? But fuck it, the West minds, we right now. Therapy showed me how to open up. It also showed me I don't give a fuck. The two-time Gemini with the genocide. I'm generous however you want it. I'll be the gentle kind. Gentlemen and gangsters connect. The agenda of mine. Move niggas up out of here. This shit get gentrified. Heavy jeans like Genovese. I drop your Pentagon to show up at your gender reveal. And tell them give me mine. I son niggas. I am the general. Wear my gin and juice. Every song in the book of Genesis. Let the sonics boom. Niggas want the tea on me. Well, here's the ginger root. I generate residuals, bitch. Get off my genitals. They say I couldn't reach Gen Z. You fucking dickheads. You must be full of that ginseng. Here comes the jinx, yeah. They genetics been synthetic, screaming they genius. A finger wave, they all fall. Niggas is Jenga. God gave me light. A good year full of free will. Trunk card, tell me not to spare your life.
You know, calling your looks out of sight. Like, what did they say? And they ain't the Lord's voice. And then you realize that the devil is talking to you.
Les Clips et Kendrick Lamar, Chains and Whips, présents sur leur dernier album, Let God Sort Them Out.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Je suis avec Reda Kateb aujourd'hui pour le documentaire Ticaret. Et Reda, je t'avais demandé une recommandation, tu m'en as envoyé une. C'est le documentaire sorti sur Apple qui s'appelle Monsieur Scorsese, consacré donc à Martin Scorsese. J'ai envie de dire pourquoi, mais bon... Je l'ai vu, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Tu,
mais
l'as vu, tu l'avais vu avant ou tu
Je l'avais vu avant. Ouais. Je l'ai vu, franchement, dès que ça a été mis en ligne, je me suis rué dessus. J'ai eu un week-end où j'ai. En fait, tu dis, c'est en 4 ou 5 parties, je sais plus, d'une heure.
Je crois qu'il y a 5 épisodes.
Et tu dis, où est-ce que je vais trouver 5 heures dans ma vie? Et en fait, à partir du moment où tu lances ça, c'est juste. C'est incroyable.
Ah, ouais. Bah, incroyable. Moi, je l'ai bingé, j'avais un aller-retour en avion un peu long, j'ai regardé tout pendant le voyage. C'est bah, puisqu'aussi avec Ticaret, on est un peu dans cette thématique des ponts finalement entre passé, présent, futur. Je trouve que un homme comme Scorsese et la manière dont ce film et dont ce documentaire est raconté, c'est très inspirant parce que on voit comment est-ce qu'il a commencé le cinéma, mais même avant de commencer le cinéma, un peu quelle a été son enfance, l'enfance d'un enfant qui grandit à New York dans un milieu plus que populaire, quoi, un milieu très précaire et tout ça, et puis qui commence à faire du cinéma avec ses amis, avec des gens de la rue aussi, ce rapport avec la rue, avec les voyous, avec... et puis après, toutes les phases par lesquelles il est passé, toutes les mues finalement, ouais. Les renaissances par lesquelles il a dû passer, des choses que j'ignorais à un moment où il est parti dans la drogue jusqu'à risquer sa vie. Et puis finalement, De Niro qui vient le voir et qui lui propose de faire Raging Bull.
Exactement.
Et lui qui dit que finalement, ben, pour lui, la boxe sur un petit écran de télévision, c'est juste de petites ombres. Comment est-ce qu'il va trouver une manière de filmer ça? Je trouve que c'est passionnant. C'est hyper bien fait, rythmé. Toutes les interviews, il y a des interviews voilà, de Niro,
DiCaprio. Oui,
Et puis, il y a ce que, finalement, ce que produit des parcours, ce que produisent des parcours sur des gens. Et moi, Scorsese, tel qu'il est aujourd'hui, je rêverais d'avoir un oncle ou un papy comme lui, quoi, quelque chose de... On a l'impression qu'il a encore une telle gourmandise, une vraie telle curiosité, énergie encore, une énergie. C'est magnifique. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je me permets, puisque c'est les recos, de faire une deuxième reco d'un podcast, une série de podcasts que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, qui a été réalisé par Karim Boukercha,
oui,
que je ne connais pas, donc il n'y a pas de recommandation de copinage.
Contrairement à Wim Wenders.
Contrairement, je vous recommande Les Ailes du Désir. Et
film.
Et Paris, Texas, voilà. Mais non, alors ce podcast, ça s'appelle Les Mille et Une Vies de Sign, S-I-G-N, ouais. Qui était un tagueur, graffeur dans les années 80-90 et qui à un moment a disparu. Qui comptait vraiment aussi dans ce mouvement. Ça fait aussi un trait d'union avec Ticaret. Et c'est un peu la recherche de cet homme à travers des personnes qui l'ont connu. Et on revient sur son parcours. Et en revenant sur ce parcours, bah, on replonge aussi dans le hip-hop en France et aux États-Unis de ces années-là, qui est un mouvement qui englobe voilà, non seulement la musique, mais aussi le graffiti, le tag, la sap et plein d'autres choses.
Très bien, merci beaucoup en tout cas pour la recommandation qui aussi boucle effectivement avec le documentaire Ticaret. Ça parle aussi de cette époque-là importante pour le hip-hop français. Mais là, Reda, l'heure est grave, oh car c'est l'heure de la question qui tue.
Après tant de légèreté.
Exactement. Non, on conclut toujours l'émission avec cette fameuse question qui tue. Et pour toi aujourd'hui, elle est terrible. Je te le dis. Reda.
Que penses-tu du monde actuel?
Non, c'est horrible ça. Non, c'est bien plus dur que ça.
Voilà.
Pacino ou De Niro?
Waouh.
Tu vois, je t'ai dit que c'était grave.
Ouais.
On parle de vrais sujets là.
Et je vais faire comme si du coup il n'y avait pas d'hésitation possible, alors que ces deux monstres sacrés, ouais. Immenses l'un et l'autre. De par qui ils sont comme acteurs, mais aussi par les parcours qu'ils ont pu faire. Mais on m'a offert il n'y a pas si longtemps. Alors. Autre reco, du coup, l'autobiographie d'Al Pacino, ça s'appelle Sonny Boy.
Exactement, j'ai... oui.
Et je dois dire que j'ai été passionné par cette lecture. Pareil, il revient et sur son enfance, et sur ses débuts, et sur son rapport avec le théâtre, qu'il n'a jamais lâché, immense star.
D'ailleurs, sa première réalisation, c'est Looking for Richard, qui est une pièce de théâtre, en fait, qui a été filmée, mais il a vraiment cet amour du théâtre, effectivement, depuis le début. C'est comme ça qu'il a été aperçu, même par Coppola, etc.
Ouais, et puis ses années de galère, et puis tout, finalement, les coulisses aussi de ses films cultes, enfin, c'est-à-dire que il raconte comment il a vécu, lui, l'aventure du parrain, comment est-ce que... Il y a des épisodes aussi, parce que je suis acteur, évidemment, mais il raconte comment, par exemple, au début du parrain, ce qu'on voit dans la série The Offer, qui était une très très belle série sur ce sujet, comment est-ce que les producteurs ne le voulaient pas, Coppola essayait de l'imposer, et il s'est retrouvé à tourner des scènes en étant finalement prêt à dégager du tournage d'un instant à l'autre. Et Et ces moments-là, comment est-ce qu'il les a vécus, lui, intimement ? Eh ben, on peut le découvrir dans ce livre. Donc, je dirais Al Pacino sur le rapport au théâtre aussi.
Ouais, qui te chose. Parle, parce que toi, t'as commencé...
Voilà, moi, je viens de ça, et puis là, j'avais pas joué pendant 15 ans sur scène, et j'ai retrouvé le théâtre l'année dernière, à travers une pièce que j'ai pu jouer au Festival d'automne, par les villages de Peter Handke, avec Cazé, notamment, d'ailleurs, mis en scène par Sébastien Kerouffi. Et je me suis dit, bah... En fait, ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est passer de l'un à l'autre et continuer dans le temps. Mais dans le théâtre, évidemment, c'est ni la fame ni l'argent pour laquelle on y va. Mais par contre, ça ressource énormément aussi dans le rapport à ce métier.
Reda Kateb, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Plaisir partagé.
Vraiment, rappelle donc que le documentaire Ticaret est disponible lundi 24 novembre sur Canal+. En attendant, la suite, évidemment, on te retrouvera sur scène ou dans les salles. Et merci aussi aux personnes qui ont préparé cette émission, Alexia Lacour et Edouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Gaspard Guy Bourget et Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, même heure, on sera avec le rappeur Les Ram qui viendra nous présenter son nouvel album Malva. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.